Nous allons passer aux lectures qui seront ou qui serviront de base pour la prédication de Jacques André. Tout d'abord, je vais commencer par la lecture de l'Exode chapitre 3, versets 1 à 10. L'Exode 3, 1 à 10. C'est l'histoire de Moïse qui sera consacré, l'histoire de buisson ardent que vous connaissez bien. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiennes et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et la deuxième lecture que Paul Robert va faire, elle est tirée du Romains 8, versets 28 et 29.
Nous savons du reste. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. On va prier pour notre frère et ami Jacques, afin de l'accueillir au milieu de nous et le bénir au nom de Jésus-Christ et lui donner toute la liberté pour s'exprimer de la part de notre Dieu. Seigneur, ce matin, oui, nous voulons te remercier pour la présence de Madeleine et Jacques au milieu de nous. Tu les bénis, tu les gardes. Merci parce qu'en dehors de nous, c'est toi qui les accueilles dans ton Église. Et merci parce que nous savons qu'aujourd'hui, tu veux encore, au travers de ce que Jacques nous dira, nous parler, nous dire quelque chose, faire que ça avance pour ton bien et notre bien. Oui, nous le bénissons en ton nom. Tu lui donnes pleine autorité, pleine liberté dans le dire de ta parole. Béni soit le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Jacques va nous dire un tout petit peu d'où il vient aussi. Voilà. C'est un vieux copain.
Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, ça date de bien des années, de nos groupes de jeunes respectifs où je fréquentais l'église de Lavigny, les Amandiers. Puis on a organisé quelques camps de ski, etc., où il y avait des Mérinois. Ça a abouti sur un mariage entre Anne B. et Paul Robert, entre autres. Et puis depuis là, voilà, on se connaît, on s'apprécie, on se croise de temps à autre. Mon itinéraire, en ce qui me concerne, a passé par Emmaüs, puis par un appel pour la mission. Je suis parti après avoir rencontré Madeleine à Emmaüs et nous nous soyons mariés. Nous sommes partis ensemble à l'île de la Réunion pendant une quinzaine d'années, comme missionnaire et pasteur dans une communauté à la capitale, là-bas, à Saint-Denis. Et puis après notre retour en 1996, nous sommes installés à Yverdon et nous avons aussi là fonctionné dans un... C'est un mauvais mot, hein, fonctionné. Enfin voilà, on a travaillé à Yverdon dans l'église évangélique de... là aussi, je ne me rappelle plus. Parce qu'elle a changé de nom, c'est pour ça, c'est pas parce que je suis un gaga. Elle a changé de nom, et voilà, Non, mais avant, il y avait un autre nom, c'est ça.
Les Cèdres.
Les Cèdres, parce qu'il y a les marronniers, les peupliers, les Cèdres. Et puis, on a déménagé, on a eu aussi, un peu comme vous, eu le privilège d'investir des nouveaux locaux. Et comme il n'y avait pas de Cèdres alentour, on a dû trouver un autre nom, ça s'appelait La Clairière. Et voilà. Comprenez pourquoi je suis confus. Et puis ensuite, voilà, depuis 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, nous sommes à Colony, à la jolie petite chapelle que vous connaissez à Colony. Si vous ne la connaissez pas, venez aussi visiter, c'est sympa, c'est joli, c'est un beau coin, une belle église. Nous sommes très heureux de servir le Seigneur aussi là-bas. Voilà, nous sommes venus une fois, je suis venu dans l'ancienne chapelle, lorsqu'on était en mission pour nous présenter, etc. Alors peut-être certains... Enfin, moi, je me souviens très bien qu'on est venu là. Et c'est la première fois. C'est pas la première fois que je viens ici, parce que je viens régulièrement dans les locaux en bas pour animer la formation service dans l'église, la FSC, pour les gens qui suivent cette formation, qui habitent dans la région de Genève. On se retrouve régulièrement ici, dans ces locaux. Donc voilà, on connaît bien. Alors, on est très, très heureux de vivre ce culte avec vous et de partager quelque chose de la parole de Dieu ce matin. Voilà, j'aimerais vous dire ce que m'a suggéré, ce qui s'est imposé dans mes pensées, dans ma lecture, quand j'ai étudié ce passage de Moïse devant ce buisson ardent, cette espèce de phénomène étrange dont on vient de faire la lecture. Vous savez, on parle quelquefois lorsque... a lieu une rencontre importante entre des chefs d'État, on parle de rencontre au sommet. Et vous savez, nous pouvons avoir aussi, je pense que chacun d'entre nous a l'occasion dans sa vie, dans son existence, d'avoir quelquefois une rencontre un peu particulière, qui peut-être dans un premier temps... ça n'annonce pas comme ça, c'est pas annoncé dans les journaux, je vais avoir une rencontre au sommet aujourd'hui. Mais après coup, on se dit, mais quand même, cette discussion que j'ai eue à tel moment a été décisive pour l'orientation de mon existence, pour ma vie. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous là, un rendez-vous avec quelqu'un d'important, c'était une rencontre au sommet. Et quand Moïse se rend sur les flancs du mont Horeb, avec son troupeau de chèvres et de moutons qu'il gardait pour son beau-père, il ne s'imaginait pas certainement qu'il avait là une rencontre, il attendait là une rencontre au sommet, qui allait bouleverser son existence à un point qu'il ne pouvait pas penser. Alors, c'est de cette rencontre que j'aimerais parler. Et nous avons lu aussi un autre passage dans l'Épître aux Romains, « Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui sont appelés ». Et j'aimerais voir un petit peu, essayer de voir un peu comment Dieu a préparé Moïse
à cette rencontre-là. C'est pas, on va se rendre compte que c'est pas par hasard. C'est pas tout d'un coup, paf, ben, tiens, j'ai besoin de quelqu'un, ben, il y a celui-là là qui est disponible, je vais le prendre ici. Non, non, Dieu avait longuement, tout au long de la longue, déjà longue existence de Moïse, parce que il faut savoir une chose, c'est que Moïse, quand il est là avec ses moutons, on se demande bien en fait ce qu'il fait là, parce qu'il a 80 ans. Normalement, il aurait dû être dans une chaise longue, dans l'EMS du coin, et il avait déjà une grande carrière derrière lui, il avait beaucoup bossé, beaucoup. Il était fatigué, cet homme-là. Mais il n'était pas si fatigué que ça, il faut croire que l'exercice l'avait bien entretenu, puisqu'il était encore capable de courir à travers mont et par veaux avec un troupeau de chèvres et de moutons. Et pour qui connaît les chèvres, ce n'est pas toujours simple, ça gambade de partout. Et Moïse, à 80 ans, avait toujours bon pied, bon œil, était toujours là. Alors qu'est-ce qu'il fait là, 80 ans? Et pourquoi est-ce que Dieu l'appelle lui à ce moment-là, alors qu'il aurait pu appeler quelqu'un de beaucoup plus jeune? Alors voilà, toute la vie de Moïse, jusque-là, c'est 80 ans qui sont déjà derrière lui. Non, en fait, était qu'une préparation, c'est ma thèse, c'est ce que je pense maintenant, après avoir un peu réfléchi à cette question-là. Ça a été une préparation, une longue, profonde préparation du cœur et de la pensée de Moïse pour cet instant-là précis, cette rencontre avec Dieu sur le mont Horeb, avec cette vision de ce buisson qui brûle de façon bizarre. Alors, on a lu le passage et j'y reviendrai dans un deuxième temps. Mais j'aimerais m'intéresser à ce personnage et à aux événements qui ont déjà marqué sa vie. Nous connaissons dans l'histoire de Moïse deux événements à ce moment-là de sa vie, quand il a 80 ans. Ensuite, il y aura encore toutes les 40 ans qui vont rester, puisqu'il va vivre jusqu'à 120 ans, qui va aller retourner en Égypte et chercher son peuple, etc. On ne va pas parler de ça ce matin, mais c'est là que l'essentiel de sa carrière va se passer. C'est 40 ans où il va où, par la grâce de Dieu, il va devenir le libérateur d'un peuple, le fondateur d'une nouvelle nation, le législateur qui va donner une loi à ce peuple, qui va le conduire ses réfugiés à devenir la nation, le peuple d'Israël. Ça, c'est pendant les 40 ans qui vont venir, c'est devant lui. Mais déjà derrière lui, pendant ses 8 ans de premières années, il s'est déjà passé des choses. Il y a deux événements majeurs qui ont certainement forger le caractère de Moïse. J'aimerais m'y arrêter un instant. Le premier grand événement, eh bien, c'est sa naissance et les circonstances de sa naissance. Quand il avait entre 0 et quelques 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans. Première partie de sa vie. On le connaît bien. On connaît bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Il a été recueilli par la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon, dans les eaux du Nil, dans cette fameuse corbeille qui avait été préparée par sa mère, de façon à ce qu'elle soit étanche et qu'elle flotte sur le Nil, et qu'ainsi ce bébé ait une chance de vivre, parce que sans cela, il n'en avait aucune. Il était condamné par une des lois les plus horribles. Vous savez, on idéalise un tout petit peu, parce que souvent cette histoire de la naissance de Moïse, on l'apprend à l'école du dimanche, et puis après on reste là-dessus toute notre vie en disant, ben voilà. Puis alors on idéalise un peu, c'est un peu comme un conte de fées cette histoire de Moïse. Voilà cette jolie princesse là qui vient se baigner au bord du Nil. Puis, oh, qu'est-ce que c'est que ce petit bateau là-bas qui flotte là, là. C'est joli. Oh, mais il y a un petit bébé dedans. Oh, que c'est mignon. Voilà. Hein? Et puis cette princesse toute charmante qui fond devant cet enfant tellement. Il est beau, hein. Alors évidemment, elle fond. Elle se doute bien. Mais c'est un enfant des Hébreux, là. Hein? Mais dans son émotion, elle dit, ah, je vais le recueillir, je vais l'adopter, je vais le prendre. Et c'est bien ce qui se passe. On est d'accord. Mais quand même, quelle horreur. quelle horreur d'en arriver là. C'est pas si romantique, c'est pas si idéal que ça.
J'ai lu un commentaire d'un historien, enfin d'un couple juif, historien, qui s'appelle André et René Neher, et qui parle de cette période que Israël ou que le peuple d'Israël vivait en Égypte, et il compare cette période à la période qu'ont vécu les juifs allemands lors de la montée du nazisme au XXe siècle. C'était un peu la même circonstance. C'est le premier grand pogrom, la première grande persécution que le peuple juif a vécue dans l'histoire de l'humanité, l'époque où Moïse est né. Et le pharaon, le roi d'Égypte, avait à cette époque-là inventé des lois pour persécuter ce peuple, pour lui compliquer l'existence au maximum. Les Égyptiens soumirent les Israélites, c'est Exode chapitre 1, verset 14, les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes d'Égypte, aux sages-femmes des Hébreux. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, si vous voyez que c'est un garçon, faites-le mourir. » Quelle horreur ! Quelle horreur ! Alors on comprend que les circonstances de la naissance de Moïse aient marqué cet homme par la suite. Parce qu'il en sera conscient, il le saura cette histoire-là, il la saura. Et on la lui apprendra. Il a beau être tout bébé à ce moment-là, son histoire, il la connaît. Et ça va marquer son existence. Il saura toute sa vie que c'est un homme... Comment dire ? D'un côté, rejeté, condamné, et puis qui a été épargné. Pourquoi ? Un autre événement, mais on y reviendra encore, regardez pourquoi j'insiste là-dessus, mais un autre événement qui va marquer Moïse va se dérouler 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Moïse aura été élevé dans la meilleure école et la plus pure tradition de la civilisation égyptienne, au palais du pharaon, excusez du peu. Il va y recevoir une éducation égyptienne avec l'Égypte et la grande nation de l'époque. Avec les meilleures universités, les meilleures écoles, une grande connaissance dans tous les domaines. On avait déjà, à l'époque de Moïse, on avait déjà construit les pyramides. Elles étaient déjà là. Ce qui veut dire que l'art de l'architecture, des mathématiques, des connaissances... des sciences humaines étaient très très avancées et Moïse en aura profité toute son existence. Il aura appris ces choses-là. C'est un grand un savant, un homme qui connaît des choses. Il a été éduqué dans ce milieu-là. Mais voilà qu'un jour, il a 40 ans, il va être témoin d'une scène qui va le révolter. Il sait qu'il est lui-même un Hébreu, un maudit dans ce pays. Il a échappé, mais il connaît son origine. Moïse, nous dit Exode 2, Moïse devenu grand se rendit auprès de ses frères et vit auprès de ses frères, les Hébreux, et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Terrible ça.
Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Tout ce qui est remonté en un instant dans le cœur de cet homme. Il voit là une scène épouvantable. Un Hébreu, un de ses frères, dit-il, qui est en train de se faire brutaliser par un Égyptien. Il a beau avoir 40 ans d'éducation égyptienne, son cœur d'Hébreu était toujours là. Et il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté ce spectacle-là. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Notez ce détail. Il regarde à gauche, il regarde à droite, voyant que personne ne le voit. Vous savez que si son cas était jugé devant un tribunal, rien qu'à cause de ça, il serait condamné pour assassinat. Parce que ce n'est plus un crime passionnel, ce n'est plus un crime qui est motivé simplement par l'émotion du moment. C'est déjà grave, mais ça l'aurait valu, je ne sais pas, chez nous, 6 ans, 5 ans, 10 ans de prison. Mais c'est un crime, c'est un assassinat, parce qu'il y a préméditation. Il a eu le temps de réfléchir son coup. Il a regardé, il a vu, il dit « je peux y aller ». Et là, le cas était beaucoup plus grave. Eh bien, voyez-vous, quand il a tué cet Égyptien, en réalité, il a tué deux Égyptiens. Il a tué l'Égyptien qui était là, mais il a aussi tué l'Égyptien qu'il était en train de devenir. À partir de ce moment-là, il a tout de suite réalisé, ou peut-être pas tout de suite, le lendemain, il a compris que c'en était fini pour lui dans sa carrière d'Égyptien. Le lendemain, il revient sur les lieux, croyant que son crime passerait inaperçu, ou en tout cas qu'on n'irait pas le soupçonner. Comme il sortait le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Mais pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Il répondit, « Qui t'a fait juge et chef sur nous ? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Ouh là 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 ! Ça veut dire que ça se sait, mon histoire. Elle s'est répandue. Alors, il n'avait pas eu besoin de faire toutes les écoles d'Égypte pour comprendre ça. Mais il sait que le bruit s'est répandu. Il sait qu'il a tout intérêt à partir en vitesse. Et il a raison, parce que quand Pharaon, nous dit le texte, quand Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Donc, première conclusion, il sait que maintenant il doit partir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en tuant cet Égyptien, il a tué deux Égyptiens. Il a tué l'Égyptien qu'il était en train de venir, et c'est vrai. Il a dit, j'ai plus ma place dans ce pays-là. Mais il y a pire que ça. Il réalise qu'il est devenu aussi, et ça c'est le pire pour lui, étranger pour ses frères. Même ses frères le rejettent, ses frères hébreux. Qui t'a établi chef et juge sur nous? De quoi tu te mêles? Il n'a plus sa place en Égypte, il n'a plus sa place parmi ses frères hébreux. Alors, vous vous rendez compte? Déjà que c'était ce qu'on appelle un abandonnique, à cause de sa naissance dans les circonstances qu'on connaît, quelqu'un qui avait été là, recueilli in extremis, mais voilà qu'à 40 ans, une deuxième fois, il se retrouve abandonné, doublement. Il n'a plus sa place en Égypte, et parmi les Égyptiens, il n'a plus sa place parmi ses frères hébreux, qui lui reprochent d'être intervenu. Oui, il avait de bonnes intentions, il voulait libérer son peuple. Mais ça s'est tellement mal passé. Alors au fond, Moïse a toujours été un homme insatisfait. Je le crois, en tout cas jusqu'à ce moment-là. Il a appris, c'est vrai, il a eu des privilèges extraordinaires, puisqu'il a étudié les sciences, comme on l'a dit, les lettres et les arts. La Bible dit dans Actes chapitre 7 qu'il était puissant, à ce moment-là, quand il était en Égypte, il était puissant dans ses paroles et dans ses actes. C'était quelqu'un de respecté, c'était quelqu'un de reconnu, qui avait une certaine autorité. Mais au plus profond de lui-même, ça ne le satisfaisait pas. L'Épître aux Hébreux dit que il préférait, au fond du même, malgré tous les fastes de l'Égypte, tous les titres qu'il avait reçus en Égypte, il préférait l'humiliation que le Christ devrait connaître. Et pour lui, ça constituait une richesse bien supérieure à toutes les trésors d'Égypte. Il attendait autre chose de la vie. Il attendait autre chose de l'existence. Donc il fuit, il part, il a 40 ans, il a que ça à faire, il fuit l'Égypte. Il va se réfugier là, dans le pays de Madian. Là, il va y rencontrer sa femme, sa belle famille, son beau-père. Et lorsqu'il a un enfant, son premier-né, qui voit le jour, savez-vous comment il l'appelle ? Il l'appelle Gershom. Bon, en français, ça ne nous dit pas grand-chose, Gershom. Mais cela veut dire, et le texte souligne, cela signifie « immigré ». Car, dit-il, Moïse, je suis un émigré dans un pays étranger. Voilà son identité. Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas chez moi nulle part. Je n'étais pas chez moi en Israël, chez les enfants d'Israël, on m'y a chassé. Je ne suis plus chez moi, chez les Égyptiens. Je suis plus de nouveau, même si je voulais retourner parmi les enfants d'Israël, je ne suis pas à ma place. Je suis un immigré. Je suis à ma place nulle part. Un homme insatisfait. Toujours en train de chercher quelle est sa place. Alors maintenant nous le retrouvons au pied de ce buisson ardent dont nous venons de faire la lecture du récit. Il a vieilli, il a maintenant 80 ans. Il connaissait d'une certaine manière, je crois que sa maman, quand elle a pu encore s'occuper de lui, a dû mettre le paquet à ce moment-là pour lui transmettre tout ce qu'elle pouvait. Mais là, il va rencontrer le Seigneur comme il ne l'a jamais rencontré. Et il va être bouleversé. Alors j'aimerais simplement reprendre quelques aspects de cette vision du buisson ardent qui est là devant lui. Qui ne se consume pas, mais qui attire son attention. La première chose, le texte dit « L'ange du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant » du milieu d'un buisson. L'ange du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant. Dieu apparaît à Moïse dans une flamme. Vous savez que Moïse, 40 ans auparavant, s'était lui aussi enflammé quand il a tué l'Égyptien. Colère, toute l'aigreur qu'il y avait dans son cœur est ressortie là comme une flamme qui a brûlé l'Égyptien qui était devant lui. Et l'ange du Seigneur, le Seigneur lui-même apparaît là comme une flamme. Et je peux m'imaginer qu'il a senti comme une espèce de lien de parenté. Ce Dieu qu'il ne connaissait pas vraiment, mais qui lui apparaissait maintenant, lui apparaît comme une flamme. Alors qu'il est attentif, il se dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien me dire, ce Dieu-là ? N'approche pas d'ici. Voilà ce qu'il entend ensuite. N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Ce qui rend un terrain ou une terre sacrée, c'est la présence du Seigneur. Et il est là, Moïse, sur une terre sacrée. Il est là dans la présence du Seigneur. Pour la première fois de sa vie, Moïse est vraiment chez lui. Lui qui s'est toujours considéré comme un immigré, qui n'était jamais à sa place nulle part, rejeté partout où il croyait pouvoir s'implanter. Le lieu où tu te tiens est une terre sacrée, haute, tes sandales. Vous savez quand c'est qu'on ôte ses sandales ? Quand on est chez soi. On est bien là. Là, j'ai posé encore les miennes. Mais je vois qu'il y en a qui l'ont fait. Moïse se sent chez lui. pour la première fois de son existence, à 80 ans, dans la présence du Seigneur, ôte tes sandales, sois le bienvenu chez moi. En Orient, chez les Bédouins, et c'était le style de vie de Moïse, c'était courant quand on rentrait dans la tente, on enlevait ses chaussures, ne serait-ce que pour ne pas amener le sable dans la tente, et même, on connaît cette tradition, leur laver les pieds, hein, pour être bien, pour être... Là où il fallait. Et pour la première fois de son existence, Moïse est chez lui, dans la présence du Seigneur. Ça a beau être un coin paumé sur le mont Horeb, là, dans le Sinaï. J'y suis allé là-bas, enfin, dans cette région-là. Hein. On m'a montré même le buisson. J'y crois pas trop, hein, ce buisson actuel. Mais enfin, vous savez, de là-bas. Bon. Mais c'est vrai que c'est beau, c'est grandiose, mais c'est pas très hospitalier, quoi. Hein. Et pourtant, là, Moïse s'est senti chez lui. Pour la première fois de sa vie.
Le psaume 27 dit ceci, je désire une chose, habiter toute ma vie dans la présence du Seigneur. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser, Moïse.
Troisième chose qu'il réalise en présence de ce buisson, c'est la parole du Seigneur. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà comment se présente le Seigneur à Moïse. Vous savez, Dieu n'a jamais oublié ses promesses. Les promesses qu'il avait faites à Abraham 400 ans auparavant. Beaucoup les avaient oubliées. « Oh Dieu, oui, oui, il avait promis ça à nos ancêtres, mais on n'y croit plus trop maintenant. On n'y croit plus trop. Il y a trop de temps qui a passé. Il nous a oubliés. » Dieu nous a oubliés. Vous avez déjà entendu ce genre de remarque aujourd'hui? Est-ce que ça, là je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que ça ne vous est pas même monté dans votre cœur à vous, en disant, mais le Seigneur m'a oublié, pense plus à moi. Et Moïse peut-être l'avait pensé à certains moments, voilà, j'ai 80 ans, j'arrive à la fin de mon pèlerinage terrestre, Dieu m'a oublié. Mais non, pas du tout. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai fait des promesses à tes ancêtres. Et ces promesses, je veux les tenir. Alors, cette parole a dû réchauffer le cœur de Moïse, lui qui s'était fait rejeter par ses propres frères. Et d'entendre dire Dieu lui-même lui dire, mais je suis ton Dieu, le Dieu de ton peuple, tu fais partie de mon peuple, tu es chez toi, non seulement dans ce lieu-là, mais dans mon histoire. Dieu, Abraham est en train de suivre une thérapie en ce moment-là. Tout ce qu'il avait cru, qu'il avait perdu, Dieu est en train de le lui redonner. Il lui redonne son identité, il lui redonne son passeport. C'était un immigré, il l'a dit, hein, il a appelé son fils comme ça. Et puis Dieu dit, mais non, tu fais partie de mon peuple. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comment Dieu est en train de reconstruire l'identité de cet homme qui avait perdu toutes ses illusions au cours de sa carrière. Et puis voilà encore une quatrième chose que Dieu lui dit. J'ai vu. Il dit même, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. C'est Dieu qui parle. J'ai bien vu l'affliction. J'ai entendu les cris. Je connais ces douleurs. Mais Moïse aussi, il avait entendu tout ça. Il avait tellement entendu que ça l'a poussé au crime. Parce qu'il voulait faire quelque chose. Il dit, ça ne peut pas durer. Il s'est révolté. Et d'entendre Dieu dire la même chose que lui, il dit, mais finalement, on est sur la même longueur d'onde. Alors ce que j'ai vu, tu l'as vu aussi. Tu as vu que ce n'était pas juste. Tu as vu comment il souffre. Moi aussi, je l'ai vu. Vous voyez comment Dieu et Moïse se rejoignent. Comment Moïse a été préparé pour ce que Dieu avait en réserve pour lui. Moïse s'était rendu vers ses frères quand il avait 40 ans. Il avait vu leur corvée, leur souffrance. Et quand il entendit Dieu lui dire, mais moi aussi, j'ai vu. Quel encouragement. Et puis il y a cette autre parole qui suit. Je suis, lui dit le Seigneur, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ah, ça me fait plaisir. a dû penser Moïse. T'as longtemps qu'on l'attendait, celui-là. Ah, tu vas enfin faire quelque chose. Formidable. Extraordinaire.
Moi, j'avais voulu, dit Moïse, pense Moïse, c'est moi qui le fais penser, hein. Le texte ne le dit pas. Mais moi, j'avais voulu aussi délivrer. Je ne suis pas arrivé. Mais si c'est toi, Seigneur, ça va être autrement. Moi, j'avais échoué. Ah, je regrette encore, j'ai loupé mon coup. Mais si c'est toi, Seigneur, si c'est toi. Et là, la dernière parole que je souligne, maintenant, nous lui dit Dieu. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alors, je vais arrêter là, parce que ma prédication s'arrête là. S'il y en a un qui veut la reprendre pour la suite, il y a des rebondissements. Parce qu'effectivement, ça ne va pas beaucoup réjouir Moïse. Non pas que Dieu libère Israël, ça le réjouit, mais que Dieu l'envoie lui, ça l'embête un peu. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On ne va pas parler de ça. Je veux simplement dire que la volonté de Dieu, ou plutôt la volonté de Moïse, qui était de voir ce peuple sortir d'Égypte, elle est rejointe par la volonté de Dieu. Moïse a été préparé par Dieu. Toutes choses ont coopéré dans la vie de Moïse. Ça a duré toute son existence. Même quand il n'y comprenait rien, même quand il ne savait pas pourquoi ça se passait comme ça, en réalité, Dieu travaillait en filigrane dans sa vie pour le préparer à ce qu'il avait à lui dire à ce moment-là. Et moi, je trouve intéressant de... En pensant, si Dieu agit ainsi, alors ma vie, même quand j'y comprends rien, elle a du sens. Ce sens, le Seigneur le connaît, pas moi. Des fois, je comprends pourquoi, après coup. Et Moïse a dû comprendre après coup. Mais sur le coup, on ne sait pas très bien pourquoi on passe par là. Pourquoi, paf, tel échec, pourquoi telle tuile nous tombe dessus, pourquoi telle porte s'ouvre à tel moment. Dieu fait concourir, fait coopérer les choses. Il l'a fait dans la vie de Moïse pour en faire l'homme qu'il voulait pour libérer son peuple. Alors, nous avons lu, et je conclue avec cela, que dans le l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, le fameux verset. Vous savez, je veux quand même que je dise, c'est un verset dangereux, ça, hein, Romains 8, 28, toute chose qu'on opère. Ne le dites jamais, s'il vous plaît, je vous en prie, ne le dites jamais à quelqu'un qui souffre. Si c'est lui qui le dit dans la foi, alors louez le Seigneur, mais n'allez pas l'écraser avec ça. Il y a un temps pour tout, hein. Et quand on souffre, un temps pour pleurer, c'est pas le temps pour leur dire ça. J'ai tellement souvent entendu ce genre de choses. Mais tais-toi, c'est pas le moment de lui dire. Mais quand même, l'objectif du Seigneur, d'après l'apôtre Paul dans Romains 8, c'est de faire concourir les choses selon son dessein pour nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est un beau projet, c'est un beau plan, un beau dessein. Alors ne soyons pas inquiets, soyons plutôt encouragés, reconnaissants de savoir que Dieu tient le fil de nos vies dans toutes les circonstances, comme il a tenu pendant 80 ans la vie de Moïse, alors que Moïse ne connaissait pas grand-chose de Dieu à ce moment-là. Je pense qu'il était plus fort en théologie égyptienne qu'en théologie biblique à ce moment-là, parce qu'il avait été mieux formé. Il deviendra le grand Moïse après. Mais jusque-là, et pourtant Dieu a tenu les moments, les événements, les toutes choses dans la vie de Moïse. Alors, croyons que le Seigneur agit de la même manière pour chacun d'entre nous, même si on n'est pas tous appelés à devenir des Moïse. Mais enfin, chacun a un bel objectif devant soi, devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. D'un certain côté, c'est plus grand que Moïse. Ouais. Amen.